Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Adane Carly, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Strasbourg et l'autrice au printemps 2023 d'un ouvrage intitulé « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» C'est formulé sous forme de question. Vous serez donc l'invité mardi 26 novembre sur les coups de 18h d'un mardi de l'égalité à l'université Rennes 2. C'est un cycle de conférences sur les thèmes de l'égalité organisé donc par l'université. On se rend au tambour pour y assister. Je crois que le mieux c'est même de s'inscrire et pour ça il faut aller en ligne sur le site unif-rn2.fr. Pour continuer à vous présenter un petit peu, vous êtes co-titulaire de la chaire France-Québec sur la liberté d'expression et vos recherches, elles portent sur les politiques de la nouvelle laïcité et les stratégies de résistance. Il faut donc commencer par expliquer ce que c'est cette nouvelle laïcité en quelques mots et en quoi elle vient s'opposer à celle qui a été formulée au début du XXe siècle.
C'est une très bonne question en fait. La nouvelle laïcité, c'est... Alors je ne sais pas si elle s'oppose à la laïcité, je vais vous l'expliquer. La nouvelle laïcité, c'est une notion de juriste qui s'intéresse aux nouvelles exigences de neutralité suite à la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics scolaires. Et à partir de cette date-là, à partir du 15 mars 2004, on se rend compte qu'il y a une forme de conversion. Il faut vraiment l'entendre comme une conversion, c'est-à-dire on a converti la laïcité qui était un principe juridique qui garantit en fait la neutralité de l'État par rapport à ses usagers, ses usagères, enfin les citoyens, les citoyennes. Et donc pour garantir cette neutralité, les agents de l'État, ceux qui représentent l'État, avaient un devoir de neutralité, et donc un devoir de neutralité philosophique, politique et religieuse. Et à partir de 2004, à partir de l'espace scolaire, cette exigence s'est étendue à un nouveau public, les élèves. Et puis, petit à petit, en fait, la nouvelle laïcité a entraîné une extension aussi de ces espaces d'application. On l'a vu avec les JO en 2024, on l'a vu dans la loi travail en 2016.
Lors des JO, il faut le redire, donc la France, qui était le pays hôte, a interdit aux sportives françaises de porter le voile.
En disant qu'elles représentaient l'État et donc qu'elles avaient une forme de mission de service public. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit avec la loi confortant les principes de la République en 2021 et le contrat d'engagement républicain. Enfin voilà, l'espace n'a eu de cesse de progresser depuis la loi du 15 mars 2004 et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle laïcité.
L'ouvrage que j'ai évoqué, « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?», c'est au départ un travail de thèse que vous avez mené en sociologie. Est-ce que c'est d'abord votre expérience de chercheuse musulmane qui vous a amené à ces questionnements parce que vous avez vous-même questionné vos propres pratiques, la façon dont vous viviez votre vie de chercheuse ?
Alors c'est quelque chose que je propose dans le livre, hein, en conclusion, en introduction, en conclusion. Alors c'est intéressant la manière dont je le tiens à l'écart du travail académique, mais c'est aussi flagrant la manière dont ça croise mes expériences. Alors quand je fais mon travail de thèse, de 2013 à 2018, je tiens à distance mon expérience. D'ailleurs, l'avant-propos de mon livre, cette expérience-là, je ne l'analyse pas dans mon travail de thèse, parce que c'est quelque chose qui n'impliquait que moi, en tant que militante féministe. En 2017, lors d'un débat public intitulé « La laïcité garantit-elle l'égalité homme-femme », ça aurait pu tout à fait, en fait, dans le cadre d'un travail doctoral, s'inscrire dans ce travail même, qui permet de dire des choses sur le cadrage de la laïcité. Mais comme il y avait un engagement personnel, je l'ai maintenu à distance. Et c'est seulement au moment d'écrire le livre, parce qu'en fait, ça part de là. En 2021, quand je signe le contrat avec la maison d'édition Hors d'atteinte, il y a ce vote au Sénat qui veut interdire le port de signes religieux pour toutes les sportives dans les associations sportives, etc., dans le cadre de la loi sur la démocratisation du sport. Et donc, je suis obligée de ressortir cette archive-là. Et dans cette archive-là, il y a du jeu. Donc le jeu, ici, il vient éclairer aussi un mécanisme et qui se prête bien, en fait, dans le livre parce qu'il résonne particulièrement.
C'est à ce moment-là que vous vous posez la question publiquement de est-ce que la laïcité ne vient pas empêcher l'égalité des femmes et des hommes, là en l'occurrence dans l'accès au sport ?
Ouais, c'est exactement ce que j'oppose, ce que je rétorque, sous une forme un peu de bon sens en fait, en leur disant mais en fait je comprends pas, très naïvement, mais c'était un peu la question qu'il fallait poser, parce que on fait comme si on y croyait tous. Et c'est aussi de se poser des questions en fait qui sont du bon sens. C'est-à-dire comment se fait-il qu'on parle d'égalité homme-femme, donc la laïcité garantit-elle l'égalité homme-femme, et que les propositions qui sont faites dans cet espace-là politique, sénatorial puis ensuite au niveau du gouvernement, est d'exclure des femmes. Et c'est là que je leur dis en fait, dois-je vous rappeler que sous le voile il y a des femmes? Et ça produit une réaction d'hostilité assez bruyante parce que les gens se sont mis à me huer dans le public. Et en même temps, c'est un moment révélateur.
Alors, dans l'ouvrage que vous signez, vous racontez les origines de l'islamophobie. J'aimerais bien vous laisser en dire un mot. Il faut redire aux auditeurs qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on peut le retrouver ça dans des documentaires, notamment celui d'Yamina Benguigui, la France avait encouragé l'immigration, s'était appuyée sur l'immigration pour reconstruire le pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'islamophobie arrive avec ?
Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose d'indissociable entre le racisme anti-maghrébin, anti-africain parfois, même si parfois pour les Africains noirs on fait une distinction parce qu'ils sont noirs et donc ça, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une hiérarchie en fait des identités. Mais moi je pense vraiment que l'islamophobie, même s'il y a des personnes converties, des personnes blanches qui vivent l'islamophobie, à l'origine est associée à la question raciale.
On arrive donc à la question de l'islamophobie, mais reliée à celle des femmes. De quelle façon est-ce que s'articulent les discours islamophobes envers les femmes autour de l'idée qu'elles ne respecteraient pas ce qu'on peut considérer comme une bonne féminité en France ?
Ouais, c'est l'argument fort de mon livre, en fait. C'est plutôt de retourner la question et de regarder quel est le postulat de départ, plutôt que de dire « non, mais elles ne sont pas victimes, non, mais ». En fait, d'être dans la réaction, mais plutôt interroger quelle est la norme qu'on défend ? La norme qu'on défend ici, c'est une féminité républicaine qui est une féminité hégémonique. La bonne féminité, c'est une féminité hégémonique, c'est la manière dont on construit, on structure en fait les imaginaires et les représentations liées à la féminité, la bonne mère, la bonne épouse, la bonne fille, etc., avec toutes les qualités qu'on va associer à ça dès l'éducation et à l'école également. Et donc, voilà, le propos, c'est de dire que les femmes musulmanes sont coupables de transgresser cet ordre de la féminité hégémonique.
J'aimerais vous poser une question sur le voile qui est, j'allais dire, souvent perçu, je ne sais pas si c'est souvent, mais qui est perçu par beaucoup comme un geste, on en parle souvent comme un geste politique, un symbole d'asservissement. C'est ce voile qui cristallise le discours islamophobe envers les femmes. Aujourd'hui, on est d'accord là-dessus ?
Oui, ouais, c'est la question du voile, parce qu'en plus on est dans un contexte international où on voit bien d'autres féminités hégémoniques comme en Iran, comme en Afghanistan, avec toute la violence qu'elles font à l'égard des femmes. Aujourd'hui c'est quand même la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, donc il faut le rappeler en Iran, en Afghanistan et ailleurs dans le monde. Mais le voile, en fait, voilà, il va être associé en fait à un symbole qui va être complètement déconnecté en fait de la réalité dans laquelle il s'inscrit. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan, et le fait de renvoyer sans cesse à ce que ça veut dire dans ces pays-là, c'est complètement, c'est absolument pas cohérent.
Et vous diriez que le voile n'est pas compris par beaucoup aujourd'hui
La question, c'est pas d'expliquer ou de faire de la pédagogie, parce que, en fait, ce que je dis dans le livre, c'est justement de revenir à cette construction de la féminité hégémonique et républicaine. C'est quelque chose de structurel, c'est pas quelque chose d'individuel. Les gens ne font que reproduire un discours qui existe, en fait, dans les espaces de pouvoir, qui existe historiquement et qui est dans l'inconscient collectif. C'est de travailler sur l'association, en fait, de l'islam comme l'ennemi de l'Occident et de la France.
Vous allez me dire ce que vous pensez de mon exemple, mais je suis allée chercher, je voulais trouver un exemple similaire, mais qui concernerait des femmes qui ne sont pas musulmanes, pour voir s'il y avait un traitement différencié, et j'ai pensé à l'exemple des femmes au foyer, qui peut être perçue comme quelque chose de politique, notamment on pense à l'extrême droite qui défend le retour des femmes à la maison, qui peut aussi être vue comme un symbole d'asservissement, mais qui pour autant, en France, n'est pas pointée du doigt comme l'est le voile, je trouve.
Alors ouais, là du coup il n'y a pas la question du symbole à part de voir ce qui se passe aujourd'hui du côté des trade wives, des femmes traditionnelles qui justement plébiscitent et mettent en avant le caractère très traditionnel de rester à la maison, de s'occuper du mari, de s'occuper des enfants, d'être belle, etc., de bien tenir la maison. Mais donc ça ne se réduit pas à un symbole, le symbole il est partout, il est dans le quotidien. Mais je trouve qu'effectivement en fait ça dit quelque chose de la manière dont nos goûts, nos représentations, en fait, elles sont complètement construites. Il y a des choses qui nous paraissent normales parce qu'en fait, on baigne dans cette culture-là.
Quels effets est-ce que ça produit, ce regard sur les femmes musulmanes ? Du mépris, d'abord, vous le dites, mais j'imagine que ça s'accompagne aussi de conséquences très concrètes. On a parlé de l'accès au sport, mais ça va, je pense, jusqu'à l'accès au logement, à l'éducation.
D'abord à l'éducation. Ça a commencé par l'espace scolaire, l'espace de la formation. Il y a bientôt une enquête de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur qui va rendre publique en fait une enquête sur un testing pour les stages dans lesquels les femmes qui portent le foulard sont plus discriminées que d'autres. Mais ça, on le sait quand on est enseignant, par exemple. Les élèves et les étudiantes qui portent un foulard ont énormément de mal à trouver des stages. La question de l'accès à l'emploi. Donc en fait, tout ce qui construit l'indépendance économique des femmes. C'est très paradoxal.
Mais ce qui va contre le cadre légal.
Et en plus, c'est ça, c'est qu'on a créé des exceptions, parce que jusqu'en 2016, c'était interdit dans le secteur privé de discriminer des femmes pour leur appartenance religieuse ou pour la manifestation de leur appartenance religieuse. En 2016, il y a quelque chose qui entre dans la loi, je crois que c'est dès l'article 2, qui permet à l'employeur de réduire cette manifestation religieuse. Donc ça devient légal, malheureusement.
Votre travail, Anan Karimi, il montre également comment les femmes musulmanes sont exclues de la cause des femmes, des luttes, on va dire, militantes. Il y a peut-être aujourd'hui des exceptions. Je pensais notamment au collectif Nous Toutes, aujourd'hui, qui a une communication inclusive, mais c'est sans doute récent.
C'est très récent. Alors, il y a eu des vraies prises de conscience dès 2015, autour de cette... un tout petit peu avant 2015, parce qu'il ne faudrait pas qu'on l'associe en fait à ce qui s'est passé au niveau terroriste en France. C'était juste un peu avant où il y a eu cette vague de féministes intersectionnelles qui obligeaient à interroger le rapport à la race et à la religion et au racisme. Mais le label, en fait, ou l'affichage de l'inclusivité ne suffit pas s'il n'est pas politisé, s'il n'interroge pas les pratiques des groupes militants. Parce qu'il y a aussi, en fait, à déconstruire cette hiérarchie qui a été faite entre les femmes et à faire du lien, parce qu'en fait, il y a des liens. Je pense à un excellent article de Éléonore Lépinard et Ilana Eloat sur la figure de la lesbienne et la figure de la femme voilée par rapport aux féministes universalistes, on va dire ça comme ça, rapidement. Et on voit du commun. Et en fait, je pense que l'inclusivité, elle nécessite en fait un travail dans les groupes féministes, dans les collectifs féministes, de trouver des liens pour faire lutte commune.
Et ça veut dire qu'au même titre qu'il y a une idée de bonne féminité, il y a un bon féminisme aujourd'hui.
Il y a un bon sujet du féminisme, absolument. C'est tout le travail d'Éléonore Lépinard, justement, qui s'est intéressée au bon sujet du féminisme blanc. Et oui, il y a des bons sujets et des mauvais sujets. Les femmes voilées, les femmes, alors je ne dis jamais voilées, normalement, c'est les femmes qui portent le foulard, sont les mauvais sujets du féminisme blanc.
Vous expliquez également qu'il y a une résistance qui se met en place, une résistance à l'islamophobie, qui s'organise donc de la part des femmes musulmanes. Sous quelle forme ?
Bon, bah déjà, quand on résiste souvent en collectif. Alors bien sûr, il y a des stratégies individuelles, mais elles sont très coûteuses, j'allais dire. Mais quand les femmes s'organisent, c'est des choses que j'ai vues sur mon terrain de thèse. Elles s'organisent en collectif d'auto-entrepreneuses, par exemple, pour pouvoir faire passer des bonnes pratiques. Il y a aussi la stratégie qu'on a vue complètement amplifiée dans le livre « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Quelque chose que j'avais déjà observé sur mon terrain et en fait effectivement qu'on peut complètement généraliser pour ceux qui ont les ressources pour s'expatrier. Et puis en fait il y a une autre stratégie, mais ça c'est une stratégie par dépit, c'est celle d'anticiper sans cesse les endroits dans lesquels les femmes peuvent ou ne peuvent pas aller, notamment tout à l'heure on parlait de la formation, mais également au niveau spatial. Et ça, c'est le travail de Kautar Najib qui montre bien que jusqu'à dans la manière de se déplacer dans la ville, eh bien, les femmes anticipent les agressions, les insultes islamophobes.
Un peu sur le même sujet, je lisais que du côté du Royaume-Uni, après les émeutes à caractère raciste qui avaient eu lieu durant l'été 2024, des femmes depuis se mettent à tout filmer pour se protéger dans leur quotidien. Ça rejoint un peu ce type de stratégie. Alors les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? C'est la question que vous posez dans l'ouvrage qui est sorti en 2023 et dont vous venez parler face au public du Tambour à Rennes mardi 26 novembre. C'est un titre en forme de clin d'œil à une autrice et activiste féministe afro-américaine qui vous a peut-être donné des idées dans la façon de mener vos travaux de recherche.
Beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait il y avait aussi quelque chose de, en France le color blindness fait qu'on ne doit pas parler de race, et au moment où je soutiens, où j'écris ma thèse, il y a déjà en fait cette vague d'hostilité contre, à l'époque c'était pas les wokistes, mais en tout cas contre les décoloniaux ou les post-coloniaux, et donc il y a tout ce travail d'autocensure et d'euphémisation des résultats de mon enquête qui se met en place, et les africaines américaines, les universitaires africaines américaines en fait m'aident à mettre des mots justes sur ce que j'observe, parce que à partir de la question des luttes des africains américains, en fait il y a quelque chose d'universel.
Et en l'occurrence, là, cette autrice, c'est Bell Hooks qui avait signé « Ne suis-je pas une femme » qui traitait de la marginalisation, du processus de marginalisation des femmes noires. La dernière question, c'est de vous demander, on a parlé un peu de votre expérience de chercheuse donc musulmane qui ont amené à des tentatives de décrédibilisation, intimidation, qui vous amènent même à craindre des baisses de financement sur des projets de recherche. Ça, c'est une éventualité
Alors, c'est les baisses de financement, c'est pour tout le monde,
ça
malheureusement.
Concerne tout le monde, ouais.
C'est ça. C'est la nouvelle, les nouvelles politiques en fait universitaires qui font que c'est très compliqué. En fait, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent pour faire les recherches, mais plus que ça, en fait, quand il y a eu les élections législatives anticipées, on a été plusieurs chercheurs qui travaillent sur les questions d'islamophobie ou les questions raciales, être très inquiétés en fait, très inquiets. De ce qui allait advenir de nous et de nos recherches.
Parce que c'est un sujet qui dérange ?
Parce que c'est un sujet qui tend à être silencieux.
Adnan Karimi, je vous représente, vous êtes donc maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg et l'invité mardi 26 novembre d'un mardi de l'égalité à l'Université Rennes 2. Ça commencera à 18h et il y aura une vente de livres qui sera proposée sur place par la librairie rennaise. Comment dire ? Pour plus d'infos et puis pour réserver sa place, ça se passe en ligne sur unif-rennes2.fr, un rendez-vous qui est gratuit et c'est une proposition qui fait partie d'un programme plus large autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à retrouver sur le site de la ville et métropole rennaise, métropole.rennes.fr. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.